Bonsoir, les transporteurs des taxis disent désormais travailler à perte à Kinshasa depuis la majoration du prix du carburant qui est passé de 2095 à 2345 francs congolais, soit un peu plus d'un dollar dans la partie ouest du pays depuis hier lundi, sans toutefois que le prix du carburant en commun ne suive à son tour la même tendance à la hausse. Le secrétaire général à l'économie nationale a en effet signé samedi dernier un arrêté portant en hausse du prix du carburant à travers le pays. Il attribue cette augmentation à la persistance haussière des produits pétroliers sur le plan international. Célestin Cuité a tout de même assuré que le gouvernement maintient la subvention des prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat de la population, à l'exception du carburant Jet A1 vendu aux compagnies d'aviation internationales. Comment expliquer cette décision du gouvernement qui combine aussi hausse du prix du carburant à la pompe et maintien des subventions des produits pétroliers par l'État? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Alki Tengue, analyste économique et stratège. Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Nixon Nzinga, bonsoir.
Bonsoir.
Nixon Nzinga, vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut Pétrole et Gaz, IPG en sigle. Et enfin, Mise au Cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa, Likoski en sigle. Mise au Cabaret, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir vraiment à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
À tous donc, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Le carburant en République démocratique du Congo, un peu plus cher que d'habitude à la pompe depuis ce lundi. Le prix a augmenté de quelques centimes de dollars par rapport à il y a quelques jours encore. La raison de cette hausse, la persistance haussière des produits pétroliers sur le plan international, explique le gouvernement de la RDC. Mais entre-temps, le prix du transport au pays n'a, lui, pas suivi cette même hausse, ce qui inquiète les transporteurs. On écoute quelques témoignages au micro de Aubin Abedi.
Le problème des transports et du carburant, il est vrai que le carburant était vraiment rare, mais actuellement ça va. Depuis le matin, nous avons constaté la hausse des prix du carburant. Un litre se vend maintenant à 2345 francs. De notre côté, ça sera compliqué car le trajet que nous faisons, c'est vraiment un manque à gagner avec cet argent qu'ils ont augmenté. Voilà pourquoi nous attendons que l'état-major un peu le prix des transports. Si nous prenons cet argent fois nombre de litres, tu verras que ça fait plus de 20 000 francs. Voilà notre difficulté. Pour nous, il n'y a pas moyen de réclamer, car c'est le ministère qui a sorti sa décision en fixant le prix à 2345 francs. On nous vend seulement du à 20 litres, pas moins, pas plus.
Alki Tengue, analyste économique et stratège. Alors, le gouvernement vient de décider que le prix du carburant à la pompe a augmenté, comme l'indiquent d'ailleurs ses témoignages, mais au même moment rassure que les subventions de l'État se poursuivent. Est-ce que cette décision du gouvernement de la RDC n'est pas faire payer à la population la même chose, mais deux fois?
Merci beaucoup pour votre question. Je me réjouis d'y répondre et je vais redire ce que j'ai déjà dit sur vos antennes. Le carburant subventionné est quelque chose de simplement inutile. Il n'y a personne qui en a besoin, même pas les Congolais. Parce que tout le monde sait très bien que quand vous subventionnez, ça veut dire qu'en fait, vous répartissez l'argent de l'État sur tout le monde. Aujourd'hui, les gens qui ont réellement besoin d'assistance, ce sont les gens qui sont les gagne-petits. Les gens qui sont riches et les gens qui sont dans la classe moyenne, ils peuvent acheter le carburant à son prix. Parlant du prix du carburant, je voudrais juste vous rappeler que dans ce même pays, alors qu'à Kinshasa, on achète à 1,15 le litre de carburant, en Bujimaï, on achète à 2,5, à Cabinda, on achète à 3, au Sankourou, on achète à 3,5 et à Chabunda à 4,5. De quoi on parle? Il faut juste être sérieux. Personne ne demande une subvention. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir la disponibilité du produit à un prix correct. L'autre problème qu'il faut résoudre, c'est le véritable problème du pouvoir d'achat. Parce que cet argent que l'État congolais donne de manière spécifique sur des produits pétroliers, l'État congolais pouvait disposer de cet argent pour le payer en tant que revenu salarial. Ça réglerait réellement et définitivement le problème. En fait, toute la question de l'achat des produits, y compris des produits stratégiques, ça doit répondre à une logique. Et la logique, c'est l'État disponibilise les produits et en ce moment-là, l'État détermine si oui ou non on les vend à un prix bien déterminé. Si on le vend sur un prix bien déterminé, soyons juste équitables avec le pays entier. On ne peut pas avoir une cartographie sur un pays où les plus pauvres payent plus cher. C'est de l'irresponsabilité politique et il faut que le gouvernement se rende compte qu'il faut résoudre le problème globalement. Deuxième chose, lorsque vous vendez le produit un peu plus cher et vous ne régulez pas le transport, la conséquence est très simple. Étant donné que notre système de transport est généralement dans l'informel, les gens commencent à faire ce qu'on appelle ici les demi-terrains. Donc en définitive, celui qui souffre, c'est le consommateur. Je pense qu'il est temps, comme pour la SNEL et pour la Régie des Eaux, pour ce produit qui est l'ensemble des produits pétroliers, les consommateurs prennent leurs responsabilités pour parler à l'État en disant « ouvrons un véritable débat sur la question ». Comment vous pouvez vous expliquer que dans un pays comme celui-ci, vous avez 150 importateurs de produits pétroliers? À quel moment allez-vous avoir la capacité de négocier sur des prix en vous basant sur les économies d'échelle? Ça n'arrivera pas. Donc il y a un problème intégral de ce produit stratégique qui se trouve être la gamme de produits pétroliers. Il est important que l'État ait une politique aujourd'hui. La politique que nous avons sur des questions de pétrole n'a aucun sens et les problèmes auxquels nous faisons face à Kinshasa ne correspondent même pas à la réalité de ce pays. C'est pour ça que dans le cadre du développement dans les 145 territoires, la question des produits stratégiques devrait être remise à table de manière claire pour qu'on soit en mesure de résoudre de manière intelligente et durable cette question, de sorte que nous ayons un prix national de carburant qui est un prix pondéré, que nous ayons la disponibilité des produits, surtout de l'étendue de la République, que l'État reprenne le monopole de l'importation de ce produit afin de tenir dans ses mains la capacité de négocier des grands volumes et donc des petits prix, et aussi d'optimiser son circuit de distribution, étant donné que c'est un produit régulé. Voilà ce que je peux dire à ce stade, et j'insiste sur le fait qu'il faut résoudre le vrai problème, et la seule façon de résoudre le problème, c'est un débat, un dialogue entre les Congolais, les consommateurs et l'État congolais.
Oui, Al-Kitende, à vous entendre, mais aussi d'autres analystes qui ont déjà réagi sur la même question, un peu de la même manière que vous, à vous entendre. Donc, tous Al-Kitende, le problème est simple à résoudre. Mais pourquoi, selon vous, Al-Kitende, l'État de la RDC, année après année, a toujours continué de maintenir la stratégie des subventions qui, à vos yeux, ne sert à rien du tout?
Il y a deux vrais problèmes. Le premier problème, c'est la mafia. Lorsque vous allez dans cette affaire de la subvention et vous vous souvenez du dernier scandale qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, il y a toujours des gens qui se font payer d'une manière ou d'une autre, et lorsqu'on fait des paiements pour compenser soi-disant les pertes acquises par les distributeurs, il y a des jeux de passe-passe que tout le monde malheureusement décrit et qu'il faut à un moment donné ou à un autre arrêter. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ça ne résout aucun problème. Le vrai problème, c'est qu'on a l'impression que l'État a peur de faire face à ses citoyens et à résoudre le vrai problème qui est celui de la compression du pouvoir d'achat lorsque le prix des produits pétroliers augmente. La vérité, c'est qu'il faudrait simplement augmenter en équivalent les salaires des plus petits. Les autres, la classe moyenne et les gens qui sont en haut, ils ont l'argent pour payer le carburant. Pour votre information, les pays qui achètent des plus grandes quantités et qui achètent à moins cher, je parle des pays occidentaux, le prix du carburant est aux alentours de 2 dollars. Et là-dedans, c'est très simple. C'est qu'une partie de l'argent sert à la maintenance et à la promotion des équipements, ça veut dire les routes. Encore une fois, j'ai juste envie de dire quelque chose qui est simple, mais qui est pourtant arithmétique. Si vous roulez sur une bonne route, la quantité de carburant que vous consommez aux 100 km est plus faible que quand vous roulez sur une mauvaise route. Ça sous-entend qu'en fait le prix régulée et maintenue bas du carburant n'est pas une solution intelligente. Ça a donné des résultats catastrophiques et il est important pour nous qu'on se rende compte qu'il est temps de créer chez nous un fonds de développement routier. Le jour où on a un fonds de développement routier dont une grande partie vient d'une grosse quantité qui entrerait dans le prix de la structure de prix, on aura des bien meilleures routes, on n'aura pas d'embouteillage, les gens consommeront beaucoup moins de carburant aux 100 km et vous allez vous rendre compte qu'en achetant le carburant plus cher, on aura une consommation moins chère. Ça veut dire en fait les effets sur le budget seront plutôt vertueux.
Merci Al Kitenge, nous vous reprenons dans ce débat, le temps de partager la parole à vos co-débatteurs de ce soir. Nixon Nzinga, président du conseil d'administration de l'Institut Pétrole et Gaz, IPG, en sigle. Vous n'êtes pas le gouvernement ce soir, vous n'êtes pas le ministère des hydrocarbures que nous avons activement invité dans les débats de ce soir et qui nous ont réservé une fin de non-recevoir. Pour le moment, on essaiera dans d'autres occasions de les avoir. Alors, Nixon Nzinga, avant que vous n'analysiez avec nous la décision du gouvernement pour essayer de gérer les difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers auxquels le pays fait face ces jours-ci, vous qui êtes un peu un expert du domaine de production, d'approvisionnement et ce genre de questions, avez-vous une idée de où est-ce que la situation d'approvisionnement des produits en carburant de la RDC, qui était annoncée pour certains le 31, c'est-à-dire aujourd'hui, et pour d'autres, en tout cas avant le 10, avez-vous une idée de où se trouve aujourd'hui le stock que la RDC attend pour se relancer?
En fait, moi, j'aborderai dans le même sens que Monsieur
Al Kitenge. Mm-hmm.
Mais sauf que je voulais aussi dire que ce n'est pas si simple, tel que lui il est présent. C'est pas simple. C'est pas simple. Il s'agit d'une équation et d'une matière assez particulière. Donc, c'est pas si simple. Moi, à ce que je sache, les intelligences sont mises en place. Et dans la lieu où vont les choses, des solutions peuvent être trouvées. On parle trop du ministère des hydrocarbures. La fois passée, j'avais dit, les ministères des hydrocarbures, c'est un ministère technique. Par rapport au prix, c'est le ministère de l'économie. Oui, le ministère des hydrocarbures, c'est un ministère technique. Donc il faudrait que les gens comprennent ça.
C'est-à-dire technique, c'est-à-dire le ministère des hydrocarbures est un peu comme le dépôt des produits pétroliers de la RDC, ça s'occupe d'approvisionner en stock ou peut-être même en production locale, c'est ça ou pas?
Oui, c'est toute cette partie technique, mais pas la partie commerciale et fixation des prix. Les prix, c'est gelé par l'État congolais, une politique qui a été mise en place depuis de longues années, et qui, il faut le dire quand même, a tenu le coup. Mais suite à la réalité actuelle, depuis un certain temps, ça ne s'en tient plus. Donc, pour le moment, je suis d'accord avec M. Al Kitenge qu'il faut libéraliser les prix. À mon avis, il faut les libéraliser, et c'est ce que j'ai dit la fois passée. Donc, nous ne pouvons pas laisser les prix
dans la logique de la subvention.
Les industriels et les pauvres citoyens achetés à la pompe au même prix. Donc maintenant, on sait que lorsque les prix augmentent, cela a un impact sur tout ce qui est produit de première nécessité et sur les transports. Donc, il faudrait maintenant, à mon avis, arrêter des stratégies pour maintenir les prix des produits de première nécessité, les prix du transport.
Mais alors, lorsque le gouvernement, en tout cas dans ce qui s'applique depuis lundi, laisse le prix à la pompe prendre de la hauteur, semble-t-il, pour rejoindre la vérité de prix, ce qui n'est pas encore le cas totalement, à entendre à Al Kitenge, les prix devaient être discutés de manière un peu plus honnête que ça, pour vraiment payer le prix de la vérité de prix. Alors, lorsque le gouvernement a laissé quand même quelques centimes de dollars être ajoutés sur l'ancien prix de l'achat du litre au carburant, et maintient en même temps maintient en même temps la politique de subvention. Est-ce que c'est une approche pareille est une bonne approche?
Non, non, c'est là où il y a cette affaire de dialogue. Mais ces prix, hein, ce n'est pas les prix de la vérité. Hein. Les prix de la vérité sont aux alentours de 3500, 3700.
C'est-à-dire,
là, il s'agit d'augmentation en palier. On augmente en palier pour arriver à un prix acceptable. Parce que l'État ne peut pas continuer à subventionner, à payer même pour les riches. J'ai parlé des industriels. Les industriels, les miniers par exemple, ils vont acheter les carburants au prix, au même prix que la population. Non, il faut maintenant soit avoir un prix pour les industriels, et c'est possible parce que leurs fournisseurs sont connus, et de même pour les jets A1. C'est inadmissible que les sociétés d'aviation achètent sous un prix subventionné par l'État. Mais après, il y a un autre élément important, là où j'ai raison à le quitter, c'est que l'approvisionnement en produits pétroliers soit totalement entre les mains de l'entreprise nationale. Nous pensons, au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs, il faudrait que la Sonahydro, qui est l'entreprise nationale, puisse s'occuper de l'approvisionnement en produits pétroliers dans les pays. Donc au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs, il y a un fournisseur comme était à l'époque de Petrozaïr, hein, c'est un fournisseur qui amène des produits ou qui peut même avoir des contrats avec d'autres sociétés et qui fournit, au moins lorsqu'il y aura des pertes, c'est supporté par l'État. Parce que tout cet argent que l'État injecte chaque fois pour éviter toute cette crise, et si tu vois, à la fois passé, 420 millions, j'ai dit, dans ces antennes ici, cet argent, si on le mettait dans le secteur de production, c'est un boom hein, pour l'agriculture, pour d'autres secteurs de production. Donc on peut même subventionner les transports hein, en ayant des bus de l'État, parce que là l'État peut maintenir les prix. Mais maintenant, là, les transports sont dans les privés. Mais il y a aussi des mécanismes. Hein. Il y a des pays où même les transports privés sont subventionnés. Les sociétés de transports privés, ils reçoivent des exonérations et même, ils ont un approvisionnement de l'État.
Nixon.
Pour toujours garder les prix par rapport par rapport au coût hein, des vies de la population moyenne.
Alors, Nixon Zinga, puisque vous évoquez la problématique de la production, nous avons toujours entendu dans des déclarations privées ou dans des réflexions indiquer que la République démocratique du Congo a le potentiel pour aussi être producteur de produits pétroliers. Vous qui êtes un grand expert de ces questions-là, déjà, ce soir, est-ce que vous pouvez dire à quel niveau la RDC peut produire une quantité de pétrole considérée et significative? Et est-ce que au jour d'aujourd'hui, il y a possibilité pour la RDC, dans une année ou deux, de devenir producteur de ses propres produits pétroliers consommés, soit pas en totalité dans le pays, ou en très grande partie, pour soulager des problèmes de fourniture?
Oui, là, on fait allusion d'abord à notre production, hein, la production du monde, hein, qu'il faut noter, il s'agit d'une production marginale. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 22 000 barils par jour. C'est une petite production. Et que cette production hein, soit raffinée sur... Nous avons une raffinerie qui l'associe à Mwanda, mais qui raffine plus les hydrocarbures depuis des années. Dans cette optique, il s'agit au jour d'aujourd'hui de la construction des raffineries. Il faudrait construire des raffineries, même à l'intérieur du pays. On peut avoir une raffinerie en Boussaï, par exemple, une raffinerie à Kinshasa. La logique de construire des raffineries dans des coques pour la production, cette logique, au jour d'aujourd'hui, dans l'économie du transport et dans l'économie du marché, aujourd'hui, une raffinerie peut être construite, par exemple, à Mbandaka. Donc, par là, on voit cette affaire d'infrastructure. Un, la construction des dispositifs de stockage. Et deux, la construction des raffineries. Les raffineries, pour raffiner sur place et donner les produits finis sur place pour la consommation. Donc voilà, pour moi, il y a une vraie solution à trouver. Hein. Il faut que les gens se mettent ensemble, réfléchissent. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des plans au niveau du ministère de l'économie, au niveau du ministère des hydrocarbures, arrêter toutes ces stratégies en termes d'infrastructures et même en termes de prix. Mais on garde à l'esprit que nos infrastructures actuelles ne permettent pas que nous soyons en abri des crises comme on assiste à ces jours.
Mais alors, vous qui étudiez ces questions-là, on peut estimer à combien le budget des infrastructures nécessaires et d'une position de pouvoir produire localement des quantités significatives pour minimiser les importations.
Bon, la construction des raffineries, ce n'est pas l'État qui va se mettre. C'est des opérateurs pétroliers, hein, et c'est eux qui construisent, hein, les raffineries. Ça peut aussi appartenir à la société nationale. C'est des idées simples. Une petite raffinerie modulaire, hein, telle qu'on a au Nigeria, c'est même des raffineries privées, c'est pas au-delà des 10 millions de dollars. Avec un 10 millions, on peut déjà avoir une petite raffinerie modulaire. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de sommes énormes.
Nixon Zinga, je vous ai un peu posé cette question qui ne vous appartient pas vraiment de manière définitive à répondre, mais puisque vous êtes dans le secteur. Aujourd'hui, il y a pénurie ou difficulté à s'approvisionner dans les quantités voulues, hein, avec le kérosène, ce qui provoque la réduction des vols de beaucoup de compagnies. Est-ce que vous avez une idée de où se trouve le stock que la RDC attend, notamment en ce qui concerne les produits pour les avions, le stock qui était commandé et qui était annoncé pour les jours à venir?
Je ne sais pas précisément là où nous en sommes, mais nous avons suivi comme tout le monde qu'il y avait des cargaisons qui devaient arriver avec les jets A1. Mais en présentement, je ne suis pas informé du niveau d'approvisionnement de ces produits-là.
Merci Nixon Zinga. Nous souhaitons vivement que le gouvernement qui nous écoute, hein, à travers cette émission délègue un de ses personnels pour pouvoir satisfaire les attentes de la population en information concernant justement cette préoccupation de réduction de vols d'avions et d'approvisionnement des produits pétroliers pour pouvoir laisser les avions fonctionner de manière assez régulière. Alors, mise au cabaret, président de la Ligue des consommateurs des services au Congo Kinshasa, Likoski en sigle, vous êtes un peu, probablement, hein, soulagé d'entendre déjà vos co-débatteurs de ce soir défendre beaucoup les populations. Alors, quelle est votre première réaction de cette décision du gouvernement de hausser le prix du carburant à la pompe depuis lundi et de maintenir quand même les subventions?
Merci beaucoup pour la question. Nous pensons que la subvention présentement au regard de la gouvernance au niveau du pays ne peut pas être supprimée directement. Vous savez que nous, comme Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, nous luttons pour une économie de production. Parce que lorsque notre économie se porte merveilleusement, les conditions de vie des consommateurs sont améliorées. Et ici, le secteur sur lequel nous sommes en train d'interagir aujourd'hui, c'est un secteur très stratégique. J'ai suivi les co-débatteurs qui ont parlé de plusieurs mesures comme solutions que le gouvernement national pourrait envisager pour trouver quand même des solutions idoines et durables. Vous savez qu'il est quand même très anormal et c'est même choquant chaque fois que nous, en tant que Congo, régorgeant des richesses sur le plan minier, que nous puissions subir les chocs pétroliers. Et cela, lorsque ça s'est fait sentir, celui qui paie les pots cassés, c'est le consommateur congolais. Et nous ne savons pas pourquoi le gouvernement, à un moment donné, ne valide pas sa politique dans X ou Y secteur, comme dans les secteurs sur lesquels nous sommes en train d'interagir. Qu'est-ce qui empêche à l'État congolais, comme les autres ont eu à le dire, de mettre sur pied un système de stations-service, donc un système d'approvisionnement, hein, une sorte au fait de monopole, hein, en importation, pour que les consommateurs ne puissent plus subir les dictats des opérateurs économiques qui viennent et qui voient que l'État est désarmé, que l'État n'a aucune politique dans ce secteur, et c'est comme ça qu'ils en profitent. Hein, ils jouent à la spéculation, parce que chaque fois lorsqu'il y a hausse du prix, certainement les opérateurs économiques jouent à la spéculation, mais également aussi les transporteurs jouent à la spéculation. Et tout ça, en tant que consommateurs congolais, nous pensons que vraiment l'État doit un peu se réveiller, et l'État doit commencer maintenant à faire le travail comme il se doit.
Mise au cabaret, vous qui êtes justement un peu comme l'avocat des consommateurs, hein, de chaque citoyen de la RDC, on a l'impression que vous faites le même constat que tout le monde, alors que, en principe, vous auriez dû mettre une pression suffisante au gouvernement. Pourquoi ne le faites-vous pas?
Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Vous savez, chaque fois lorsqu'il y a des tels problèmes qui se posent au niveau du pays, la Ligue des consommateurs des services, évidemment, consoeurs, hein, en collaboration avec les autres organisations de la société civile, nous organisons des réunions et nous procédons à l'analyse du contexte. Et il y a des notes techniques que nous envoyons, que ce soit au niveau des provinces ou au niveau de Kinshasa. Alors, par rapport à nous comme acteurs sociaux, comme consommateurs, certainement que c'est un problème qui crée des tensions. Et c'est un problème qui nous amène, nous, à agir pour amener les gouvernants à pouvoir, envisager des solutions pour que le pouvoir d'achat du consommateur ne puisse pas s'amenuiser du jour au lendemain. Et je vous assure que ce sont des choses qui se font, parce que ici, lorsque nous encadrons les consommateurs ça et là, nous leur donnons un peu de la matière pour améliorer leur capacité de revendication. Et c'est comme ça chaque fois, lorsqu'il y a hausse des prix, par exemple, de ces produits stratégiques, vous allez constater qu'il y a des grognes, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au niveau des grandes villes du pays, il y a des grognes. Et des fois, il y a des contacts qui se font au niveau des gouvernements provinciaux, mais aussi au niveau de Kinshasa, pour poser les problèmes. Parce qu'ici, nous n'allons pas agir comme des policiers, nous n'avons pas, une certaine politique de contrainte. Hein? Donc, les seules techniques que nous avons et sur lesquelles nous pouvons agir comme levier pour faire pression au gouvernement, au fait, ce sont des plaidoyers, ce sont des lobbying.
Mise au cabaret, mais qu'est-ce qui vous fait penser que mettre fin à la politique de subvention n'est pas une bonne chose, ou alors, je reprends vos propres termes, que cette politique ne va pas s'arrêter maintenant facilement? Pourquoi vous pensez
moi,
que...
Je me dis ceci, présentement là, au regard de la gouvernance financière, au regard de la gouvernance dans les secteurs, il y a des mesures que nous pouvons lever aujourd'hui et qui vont nous causer beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'avec cette histoire des subventions, il y a à boire et à manger, il y a des marques tout autour, mais c'est question qu'au niveau de la société civile et au niveau même de la FEC, que nous entrions en contact avec les gouvernements pour qu'on puisse bien canaliser toutes ces subventions qui sont accordées pour amortir les chocs.
Alors, mise au cabaret, vous continuez de garder la parole. Mais je vous invite à suivre plutôt le commentaire de cet auditeur qui intervient ce soir, Isaac.
Isaac Bambori qui de Bukavu au Sud Kivu. Qu'est-ce qui a vraiment manqué à la RDC, pays pétrolifère, pour exploiter et raffiner localement son pétrole? Méritons-nous une telle situation?
Et voilà, mise au cabaret, vous avez suivi la réaction de cet auditeur qui semble dépité du fait que, pour lui, hein, la RDC a un potentiel qui doit lui permettre de faire face et ne devrait pas subir de plein fouet tous les effets, même si ces effets sont plus ou moins planétaires, de l'approvisionnement des produits pétroliers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a tout à fait raison. Nous sommes de ceux-là qui pensons qu'il faut qu'on améliore la gouvernance financière au pays. Parce que tout l'argent collecté par les gouvernements, par les biais de régie financière, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même très grave. J'ai suivi les co-débatteurs qui a parlé d'une raffinerie qui irait dans...
Qui
prendrait 10 millions de dollars américains. Est-ce que vraiment, si nous devons investir dans ce secteur-là, donc nous allons manquer vraiment 10 millions au niveau de chaque province, ça et là, où on peut vraiment implémenter des raffineries et que nous puissions vraiment aussi être un pays qui produit, évidemment, comme nous n'aurons pas peut-être assez de réserves stratégiques, même si on produisait au pays, et que maintenant nous puissions prendre les surplus qui nous viendraient de l'extérieur. Et si nous voulons charger les gouvernements congolais, les gouvernements congolais doivent lever des options claires. Le gouvernement congolais doit bien gérer ses finances. Le gouvernement congolais doit faire un effort pour mettre fin à la mafia, mettre fin à la corruption. Parce que nous avons constaté que nous produisons beaucoup de richesses au niveau de ces pays. Nous produisons beaucoup de recettes. Mais tout cela finit dans des poches des individus. Et ça, c'est quand même très anormal. Maintenant, à quoi nous serviraient les cours des tribunaux, les cours des tribunaux? Et si l'État ne peut pas avoir une culture de sanctions, une culture pour mettre fin à toutes sortes de mafias qui s'organisent ça et là. Mais quand est-ce que nous allons maintenant penser au développement de ces pays? Vraiment, le gouvernement, il est le premier responsable de tout ce qui nous arrive comme malaise dans ce secteur-là. Et nous, comme consommateurs, nous sommes en train de regarder ces gouvernants. Le gouvernement a été mis en place par des voies démocratiques et ils doivent comprendre ce qui en sont animateurs au niveau des institutions. Ils doivent comprendre que lorsqu'il y a un problème qui se pose, ils nous doivent des explications, mais également ils nous doivent des solutions.
Merci, Nizo Kabaré. Merci pour votre intervention. Dans cette émission, nous avons souhaité avoir un représentant du gouvernement, mais sans succès. Nous essayerons lors des occasions prochaines pour pouvoir justement écouter leurs positions et les solutions que le gouvernement peut apporter face à tous les questionnements que vous entendez dans cette émission. Nixon Nzinga, président du conseil d'administration de l'Institut Pétrole et Gaz, IPG en sigle, pour vous, cette réflexion de Kasongo qui nous appelle de Mbujimayi.
Moi, c'est Kasongo Nyemboui Passé, depuis la ville de Mbujimayi au Kata-Oriental. Cette situation semble être une crise générale qui s'est déclenchée depuis le début de la guerre en Ukraine et en tant que telle, elle secouera sûrement les secteurs utilisateurs du produit pétrolier, notamment les transporteurs de taxis, les compagnies d'aviation, les industries, les sociétés et les services d'agence qui, eux, subissent les effets indirects de la rareté du carburant d'une part et de l'irrégularité des vols d'autre part. Et c'est ce qui fait que les agences ne savent plus fonctionner correctement. Les colis qui faisaient autrefois 24 heures pour arriver à destination font actuellement 1 à 2 mois. Et là, c'est une vie difficile même pour les opérateurs économiques qui font la commande de certaines marchandises parce qu'il y a rareté de vol et rareté du produit pétrolier. Alors, face à cette crise générale, tous les secteurs sont priés à s'incliner et à s'adapter à la conjoncture actuelle. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Le mieux à faire serait de laisser les champs libres aux transporteurs des taxis en commun, en vue de leur permettre à relever leur pouvoir d'achat pour subvenir à leurs besoins de ménage. Et le gouvernement a maintenant la responsabilité d'alléger les prix du transport en commun à travers ses services clés pour permettre aux citoyens incapables de s'accommoder aux exigences des transporteurs des taxis en commun. En outre, le gouvernement devrait développer la politique de réglementation des prix sur les différents marchés et adopter des mécanismes de contrôle et de suivi afin de sanctionner les fautifs. Merci.
Dixon Zinga, commentaire?
Oui. En fait, ce que j'ai compris, notre ami, il fait une contribution, il n'a pas posé des questions. Mais je voulais quand même rassurer notre ami monsieur Mizo Kabari. Je voulais lui rassurer que le gouvernement y réfléchit. Hein, je pense que les gens sont tentés de réfléchir. C'est des Congolais, hein, ils viennent de nous. C'est pas des extraterrestres, ils sont là pour nous. Moi, je pense qu'il y a des réflexions qui sont faites et que des solutions définitives vont être trouvées. Je crois fermement, donc je voulais le rassurer, que la population n'est pas abandonnée. Donc ça, c'est un. Et pour un peu renforcer mon analyse, j'ai dit, solution de tout ça serait de faire la Sonaïdrop, l'entreprise nationale, une entreprise forte. Comme au Congo-Brazza, comme en Angola, comme en Algérie, d'avoir une entreprise forte, une entreprise nationale forte. C'est une solution pour nous, l'une des solutions. Ça vient de là. Et après, on ne va pas inventer la roue. Il y a des pays qui ont expérimenté cette liberté des prix. J'ai la fois passé donner l'exemple du Ghana, et ça marchait. Donc nous aussi, il n'y a pas la roue à inventer. On expérimente, on va essayer cette expérience du Ghana et voir ce qu'ils avaient donné.
Manixon Dinda, est-ce qu'une des solutions, à part que la Sonaïdrop devienne une société forte, est-ce que l'une des solutions, ce n'est pas aussi, un peu comme dans beaucoup de secteurs, une production autonome, une production locale, parce que on a vu qu'avec la crise en Ukraine, presque le monde entier est pénalisé par rapport au prix des produits pétroliers. Si jamais une telle expérience devait se répéter, beaucoup de pays, y compris la RDC, seront encore inquiétés. Est-ce que l'autonomie locale en termes de produits hydrocarbures, en termes de produits pétroliers, ne serait pas aussi une des solutions?
Oui, l'autonomie, c'est d'utiliser notre petite production que nous avons en Mwanda et raffiner sur place. Ça, c'est déjà une autonomie. Mais la production dans la cuvette, dans l'Est, c'est pas pour aujourd'hui. Hein, produire une goutte là, on a lancé, on va lancer les appels d'offres pour le bloc. Ah, il faut pas rêver debout. C'est pour arriver à produire une goutte dans un puits de pétrole, il faut prendre 15 ans. Donc cette autonomie à produire, par exemple, dans la cuvette ou dans les grabènes du Tanganyika, c'est à rêver debout. Donc on sera toujours obligé d'acheter du brut pour compenser notre consommation. Donc notre production actuelle ne permettra pas de couvrir les besoins en produits finis. Donc nous devions toujours importer du brut. Mais sauf que là, maintenant, les raffineries seront sur place. Et déjà, les raffinages, c'est aussi une activité. Vous vous rendez compte, si on construit des raffineries à travers le pays, par Sonaïdrop, hein, qui sera, qui va piloter, hein, il va être actionnaire, même s'il sera un minoritaire, mais au moins, toutes ces raffineries, il y aura aussi création d'emplois.
Merci, Nixon.
Donc pour moi, je le répète, il n'y a pas la roue à inventer. Des choses peuvent être faites en copiant
d'autres pays.
Certains pays qui ont réussi.
Merci, Nixon Nzinga. Pour vous, Alkitenge, nous appelons Albert à réagir.
Albert Kolembela Bokomba, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. La hausse des prix de carburant a changé pas seulement le prix de transport, mais aussi le prix des denrées alimentaires. À ce jour, chaque transporteur cherche son intérêt et cela influence le prix de transport pour que ce dernier trouve un plus-value. À mon avis, le gouvernement devrait trouver une solution urgente par rapport à cette situation, affichant un montant uniforme à la porte et veiller à son application, pour permettre aux gens de bien vivre, car les transports sont un secteur important de la vie.
Alors, Al-Kitenger, nous avons déjà écouté votre proposition par rapport au prix. Hein. Vous allez réagir sur autre chose si ça vous dit. Mais par rapport à la gestion du problème à long terme, en termes peut-être de fourniture et de d'infrastructure, partagez-vous le point de vue, notamment de Nixon Nzinga, de faire une société locale forte et d'avoir des raffineries multiples?
J'ai un petit problème d'abord avec l'intervenant tout à l'heure, Albert. Et moi, comme vous le savez très bien, je suis un stratège. Je ne résous pas les problèmes d'hier. Ils sont dépassés, ils n'ont aucun sens. Je résous les problèmes d'avenir. Vous savez, les solutions urgentes, ça veut dire simplement que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire en son temps. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est d'avoir ce qu'on appelle les stocks stratégiques. Notre structure de prix actuelle prévoit une portion pour être en mesure de constituer sur notre territoire des stocks pour être en mesure de donner des solutions en temps de crise, et nous sommes en temps de crise. La conséquence est que malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui de stocks réels stratégiques parce que nous ne sommes pas suffisamment responsables vis-à-vis de ce stock qui devait être physiquement présent sur le territoire congolais pour nous permettre d'agir en tant que tampon. Mais je voudrais aller sur des choses simples. Aujourd'hui, dire aux gens que nous allons avoir plusieurs raffineries dans ce pays, c'est peut-être une bonne réponse, mais il faut quand même savoir que le temps des produits pétroliers est en train d'arriver à la fin. Dans les 5-10 ans qui viennent, toutes les voitures seront électriques ou à hydrogène. Alors la question c'est de savoir, est-ce que nous avons intérêt, parce que nous ne fabriquons pas des véhicules, d'aller vers une prolifération d'infrastructures de production des produits pétroliers aujourd'hui? La réponse est peut-être non. Maintenant, comment on fait pour être en mesure de résoudre le problème d'aujourd'hui? C'est l'argent que l'on prend aujourd'hui et que l'on donne aux gens en termes de subventions, mettez-le sur des salaires des plus petits. Ça veut dire les gens qui ont le moins d'argent. Renforcer spécifiquement leur pouvoir d'achat. Les gens qui sont à la classe moyenne et les gens qui sont riches, ils ont le prix, le moyen d'acheter les produits pétroliers correctement. Deuxième chose, c'est un problème stratégique. Le produit pétrolier devrait avoir un même prix national sur toute l'étendue de la République afin de stimuler l'économie. Et aujourd'hui, le schéma dans lequel nous amène le chef de l'État, celui de développement à la base, nous impose une réflexion stratégique. Il faut quitter les sentiers battus. Et ici, je voudrais revenir sur le défenseur des droits de l'homme. Les organisations de défense des droits de l'homme sont totalement irresponsables dans ce pays. Et quand vous entendez mon confrère, tout ce qu'il dit, c'est qu'ils écrivent des notes. Ça ne suffit pas. Dans le monde entier, l'opinion publique détermine les politiques publiques. Ça sous-entend qu'en fait, s'ils représentent réellement une marche, ils devraient avoir droit à discuter viablement avec le gouvernement. S'ils pesaient quelque chose, ils auraient eu la capacité de discuter viablement avec le gouvernement. Aujourd'hui, le prétexte du gouvernement, c'est de dire on ne peut pas augmenter le prix du carburant à la station, ça va créer des problèmes dans la masse. Mais non, les gens ne sont pas idiots. Aujourd'hui, les gens payent 3 fois ou 4 fois le prix nécessaire parce qu'ils payent 2 courses ou 3 courses. Ça veut dire qu'ils payent déjà. Ce n'est pas moins raisonnable que de penser qu'en augmentant viablement le prix du carburant et en ayant des routes de qualité, parce que c'est la double diptyque qu'il faut être en mesure de mettre en place pour qu'on soit en mesure d'avancer. Tous les pays du monde appellent ça la mobilité intelligente. Ça sous-entend qu'en fait, il faut travailler sur un mix énergétique dans les jours à venir. Il faut commencer à penser que les carburants fossiles sont aujourd'hui des choses qui vont progressivement appartenir au passé. Et nous, en tant que pays détenteurs d'un potentiel énorme énergétique, je parle de l'électricité propre, nous devrions être des champions de la mobilité énergétique. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a des pays entiers où 60% de la mobilité en transport en commun est en véhicule électrique. Nous devrions être champions des véhicules électriques pour une simple raison. Nous sommes producteurs des produits de l'électricité et nous sommes importateurs nets des produits pétroliers. Ce n'est pas raisonnable pour un pays qui se dit être pauvre. Nous devons être minutieux avec les peu d'argent que nous avons, être en mesure de les dépenser de manière viable. Et je pense simplement que cette question, en même temps qu'elle nous permet de réfléchir sur les contraintes d'aujourd'hui, devrait nous permettre de réfléchir de manière stratégique sur les solutions de demain.
Merci beaucoup Al-Kitenge, tout comme à Nixon Nzinga et Mise au Kabar, et pour votre participation à l'émission de ce soir. Billy Landry Betou et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.